Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. S'il fallait prouver l'attractivité de la France, eh bien c'est fait avec l'énorme investissement que vient d'annoncer le laboratoire Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement du diabète. Étienne Tichit, le directeur général France de Novo Nordisk, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. C'est le troisième groupe d'hospitalisation privée, mais peut-être le plus innovant sur le plan managérial. C'est le groupe Vivalto Santé et j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général, Emmanuel De Geuser. Enfin, c'est un journaliste très connu et respecté dans le monde de la pharma, Olivier Robichon, directeur de la fameuse revue Prescription Santé, vient de sortir un livre dont le titre résume bien son contenu. Son ouvrage s'appelle « Quand notre santé va mal, la bérésina du système français ». Et on a hâte d'en savoir plus. Check-up Santé, c'est parti. Étienne Tichit, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Check-up Santé, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous êtes dans l'émission. Vous avez une longue carrière chez Novo Nordisk, puisque vous y êtes entré il y a plus de 20 ans, et vous dirigez, vous êtes le directeur général de la filiale France depuis 2019. C'est une maison centenaire.
Et oui, centenaire en 2023.
Donc cette année donc.
Exactement.
Feu d'artifice, il y a eu un feu d'artifice, une fête particulière, non?
On est très sobre.
Vous avez fêté ça toute l'année? Oui. C'est danois donc.
Danois.
Et une maison qui marche très très bien, puisque vous avez une croissance qui est importante chaque année, on est d'accord?
Oui, on est une entreprise, comme vous l'avez dit, une entreprise centenaire, détenue par une fondation. Donc ça, c'est un point particulièrement important, puisqu'on est investi dans les maladies chroniques, et c'est un engagement de longue date et de long terme. Quand on parle de Novo Nordisk et des missions qui sont confiées par la fondation à Novo Nordisk.
Alors justement, vos domaines thérapeutiques sont principalement le diabète et l'obésité. Ça représente quoi en termes de personnes en France atteintes de diabète ou d'obésité?
Aujourd'hui, donc comme vous le dites, donc 100 ans de diabète pour Novo Nordisk, c'est un point particulièrement important. On est très très engagé dans l'innovation au service des patients. En France, on est classiquement sur 3,6 millions, 3,8 millions de personnes atteintes de diabète en France, et à peu près 1 million qui s'ignorent. Donc on a
il y a un peu plus de gens en surpoids et d'obèses en France. Alors on peut être obèse sans avoir de diabète.
Il faut distinguer diabète de type 1, diabète de type 2,
bien
obésité.
Sûr.
Voilà.
Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est une véritable pandémie, puisque dans le monde, on parle de 500 millions de personnes atteintes de diabète.
Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une véritable pandémie, et malheureusement, on n'a pas encore réussi à mettre au point des solutions curatives. Donc aujourd'hui, nos innovations sont essentiellement à titre donc de traitements quotidiens, voire hebdomadaires, et surtout des traitements qui vont traiter de façon plus large, puisque traditionnellement, on parlait de faire baisser la glycémie, c'était la vertu numéro un d'un traitement du diabète. Maintenant, on parle de cardio-métabolique et de pouvoir aussi protéger le cœur en même temps que
c'est l'habitude d'une espèce de médecine holistique où on s'occupe du patient dans sa globalité. Quand
c'est
vous dites
nécessaire.
Cardio-métabolique, c'est important. Donc, vous fabriquez évidemment de l'insuline, ça c'est depuis quelques décennies, et aussi des stylos injecteurs pour injecter cette insuline. Donc en fait, vous fabriquez donc un produit médicamenteux et aussi le dispositif médical.
Donc c'est très important parce que quelque part, le mode d'administration étant de l'injectable, il est nécessaire pour nous d'avoir des outils au service des patients qui sont dans le quotidien des patients, qui soient précis, donc qui offrent une garantie de sécurité et en même temps de nous assurer que le patient est en parfaite autonomie avec son traitement.
Alors, vous avez évidemment deux produits stars en ce moment, qui font un carton dans le monde entier. C'est les deux produits, c'est Ozempic et Wegovy, qui ont montré d'ailleurs leur efficacité, tous les deux, dans le traitement du diabète, pour l'un, et l'autre dans la diminution du poids.
diabète, poids, cardio-métabolique, parce que là aussi...
C'est sûr que tout est lié, quand le poids diminue, les facteurs de risque diminuent aussi.
Ce sont des éléments indépendants aussi, parce que là, en l'occurrence, la dernière étude qui a été publiée, qui a permis de montrer de 20% de réduction du risque cardiovasculaire...
De SELECT.
Donc, cette étude-là, particulièrement, nous a permis de voir que ce n'était pas lié au poids, à la perte de poids que nous avions l'effet cardiovasculaire. Donc des traitements beaucoup plus holistiques, effectivement, et qui permettent d'adresser des problématiques de santé différentes ou à différents stades. Donc le diabète d'un côté et puis l'obésité de l'autre.
Mais tout le monde ne peut pas prescrire ce médicament. Il faut être spécialiste pour prescrire ce médicament.
Dans tous les cas, ce sont des médicaments, des substances actives de haute technologie. Donc nécessairement, il faut que l'indication soit bien posée. Donc un médecin est nécessaire pour la prescription. Et ensuite...
En France. Oui.
En France et même dans le monde, ouais. et surtout aussi de respecter le circuit de dispensation du médicament.
Ouais. Bien sûr, parce que c'est un tel succès qu'il y a
ça doit
parfois
être
donc un détournement de son utilisation, non pas dans le monde, peut-être pas en France, mais
disons que en France, on travaille de façon très étroite avec les autorités, de façon à ce que on ait le meilleur usage possible du médicament. Et ça, c'est vraiment un message que je souhaite renforcer. C'est la bonne indication, le bon traitement, ouais. et puis surtout le bon traitement approvisionné par un professionnel de santé.
Alors, est-ce qu'il est possible en ce moment en France pour l'industrie pharma de se développer sans contrainte XY ?
Alors. Aujourd'hui, on a plusieurs façons de voir déjà notre industrie. Hein. On peut se dire, est-ce qu'on est suffisamment attractif sur la partie R&D ? Est-ce qu'on est assez attractif sur l'aspect industriel ? Je pense qu'un élément important, c'est qu'on poursuit notre recherche et développement en France, en particulier sur la partie développement clinique. Donc, faut qu'on accélère encore pour être plus compétitif. Sur des aspects industriels, on a communiqué la semaine passée donc un investissement colossal pour le groupe qui va permettre de répondre aux besoins de santé. Donc sur le versant industriel, on peut être plus compétitif sur les aspects industriels. En tout cas, nous, on croit à la France. On a choisi la France déjà depuis 1960.
Et pourtant, il y a des freins.
Il y a d'autres freins, voilà. Ouais. Il y a certains freins qui existent toujours sur la reconnaissance de l'innovation, en particulier dans les maladies chroniques, et qui se traduit bien souvent aussi par une pression importante sur le prix du médicament en France. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où le médicament en France a du mal à avoir une reconnaissance à travers son prix au même niveau que le reste de l'Europe.
Alors l'actualité du moment, évidemment, c'est votre méga investissement de plus de 2 milliards d'euros pour votre usine de Chartres.
Exactement.
C'est ça, qui est même venu annoncer en personne le président au Monde. C'est bien ça ?
Oui, alors on a notre CEO, Lars Fruergaard, qui est venu effectivement sur notre site la semaine passée, en rencontre avec le président Macron, de façon à pouvoir aussi montrer qu'il est possible d'investir de façon massive en France pour répondre aux besoins alors des Français, des Européens, et puis aussi de 80 pays dans le monde, puisque notre usine de Chartres est un site stratégique pour le groupe.
Pourtant, il y avait pas mal de pays qui candidataient.
Oui, toujours.
Bravo.
toujours.
Il faut vous féliciter à vous personnellement, non, pour avoir œuvré pour... que cet investissement se passe en France.
Vous savez, moi, je pense que nos métiers, nos histoires personnelles se mélangent souvent. Ayant effectivement des membres de ma famille qui sont concernés par le diabète, l'obésité, voilà, j'ai aussi pour quelque part une loyauté familiale de pouvoir les accompagner au mieux et de faire en sorte que la France rayonne aussi sur le plan industriel.
Alors pour finir, pourquoi cet investissement, il va servir à quoi cet investissement ?
Eh bien, grâce à cet investissement de 2,1 milliards, on va être en capacité de doubler la surface de notre usine. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va augmenter nos capacités à la fois sur la production aseptique, sur du conditionnement, du remplissage, de l'assemblage. Donc puisque, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a des traitements et on n'a pas que des traitements. On a aussi la forme d'administration en stylo qui sont assemblés à Chartres. Et puis de l'autre côté aussi une plateforme qualité, donc on a un laboratoire qualité qui va doubler de taille aussi pour 1600 m² et qui va nous permettre aussi d'avoir des nouvelles technologies pour nous assurer que la qualité est encore plus au rendez-vous.
Et avec tout ça, une décarbonation prévue pour 2045 total.
La décarbonation, elle est déjà en cours. Hein, la dernière fois.
Elle est un petit peu dans l'ADN de votre laboratoire.
Elle est clairement dans l'ADN de notre laboratoire. Donc c'est un point central de notre contribution. Hein, je pense qu'on faut le voir sous forme de contribution. Contribution santé. On évoque le traitement du diabète, traitement de l'obésité, toute la sphère cardio-métabolique. Une contribution en matière de décarbonation, parce que dès l'instant qu'on pense industriel, il faut décarboner. Et en tout cas, pour nous, c'est une priorité. Donc, on a déjà fait de très, très gros efforts entre 2019 et 2022. Et là, on va aller encore plus loin parce que l'objectif, c'est zéro émission à horizon 2030 pour notre site et 2045, zéro émission aussi pour nos partenaires et fournisseurs.
Eh bien, bravo, merci beaucoup. Bravo personnellement et bravo à votre laboratoire pour cet investissement. On va à présent accueillir Emmanuel de Geuser, qui est le directeur général de Vivalto Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Emmanuel de Geuser, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur général de Vivalto Santé, qui est le troisième groupe d'hospitalisation privée en France, mais vous n'êtes pas présent qu'en France.
Absolument. Depuis 2022, nous avons doublé taille et nous sommes actuellement présents dans 6 pays, donc la France. Et notre source d'origine, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, la Tchéquie et la Slovaquie. Donc un bond en avant assez impressionnant de 2022.
Donc un groupe européen, on peut le dire.
Maintenant, on peut dire un groupe européen. Absolument.
Mais pourtant, c'est un groupe assez jeune, non, qui a été créé en 2010.
Alors oui, comparativement au Nouveau Nordisque, nous n'avons pas 100 ans.
Vous n'avez pas fêté votre centenaire.
Exactement, on est plutôt dans l'adolescence. Mm-hmm. C'est un groupe qui a été créé en 2010, qui est ancré dans les territoires de l'Ouest français. Donc Rennes, Saint-Malo, Brest, hein, pour situer les premiers établissements du groupe, et qui aujourd'hui est numéro 3 en France et reprend la moitié de son chiffre d'affaires.
Avec combien d'établissements, d'hôpitaux privés ?
Alors hôpitaux privés, 75 hôpitaux privés en Europe, dont 50 en France, et en gros la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait sur le territoire national. Et à l'échelle européenne, nous servons 2,5 millions de patients, avec 26 000 collaborateurs, 20 000 du personnel salarié. Ouais. Et 6 000 médecins.
Et 6 000 médecins en Europe et 3 000, je crois, en France, c'est ça, hein ?
Voilà, 3 000 donc, médecins en France, 3 000 dans les autres pays en dehors de France. Et 10 000 et 10 000, c'est assez facile à retenir.
Ah ouais. C'est bien, c'est les chiffres ronds aujourd'hui. 110, ça c'est parfait.
On fait en sorte que ça soit rond.
Alors vous avez un modèle assez unique de gouvernance, hein, c'est ça ? Une gouvernance partagée ?
Bravo, absolument.
Vous différencie un petit peu des autres.
Oui. Un petit peu beaucoup. Mm-hmm. C'est vraiment le modèle de Vivalto Santé. La gouvernance partagée, ça consiste à dire que vous avez les médecins, aujourd'hui un tiers des médecins français, et on va bien évidemment travailler ensuite sur l'Europe, mais aujourd'hui un tiers des médecins français détiennent 30% du capital de Vivalto Santé, de l'ensemble du groupe. Et à ce titre-là, ils sont au plus haut niveau de notre gouvernance, avec des vrais droits d'orientation stratégique et de décision sur l'ensemble des décisions, je dirais, opérationnelles du groupe. Ça, c'est le premier volet, globalement, de la troisième voie. Et l'autre volet, c'est qu'à tous les échelons de l'organisation du groupe, que vous alliez de l'établissement au territoire et au niveau du groupe national, vous avez des alter-ego au niveau médical qui sont tout à fait atypiques et qui n'ont rien à voir avec les CME qui sont des obligations réglementaires. C'est véritablement des petites équipes qui travaillent ensemble pour travailler sur le projet médical d'établissement, le projet territoire d'établissement, sur tous les irritants du quotidien qu'il peut y avoir dans un hôpital.
Alors quand on pense à établissement privé, on pense aussi, on associe le mot lucratif, alors que ce n'est pas toujours vraiment le cas.
Oui, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à nous présenter comme un acteur du service public hospitalier, parce que c'est, les gens ne le savent pas ou peu, 90%, plus de 90% de la rémunération aujourd'hui d'un hôpital privé en France est payée par la Sécurité sociale, donc par l'État. Et le solde est globalement payé par nous, patients, et les mutuelles, nos mutuelles pour lesquelles on cotise. Et sur l'activité globalement de soins, aujourd'hui, en 2023, c'est une activité qui est globalement déficitaire en résultat d'exploitation.
Ouais, alors donc on peut pas vraiment associer hospitalisation privée et lucratif.
C'est difficile. En tout cas, nous, on fera des pertes cette année si on neutralise les éléments exceptionnels, puisqu'on a vendu des murs, parce qu'on est aussi obligé de vendre les murs de nos hôpitaux à un moment pour continuer à se développer. Le développement à l'international, il se fait aussi à travers des financements qu'on va chercher sur nous-mêmes. Mais vous voyez bien que le modèle a des limites. On ne peut pas durablement afficher un résultat net négatif. Je pense que tout le monde le comprendra. Ça n'a pas beaucoup de sens pour des investisseurs.
Alors, parmi les autres freins, un petit peu, c'est peut-être la pénurie de personnel, de médecins et de soignants, d'une manière générale ?
Alors, plus du personnel aujourd'hui, infirmières en particulier, c'est vrai que c'est pas un phénomène nouveau. Ça s'est accéléré avec la période Covid, puisque fondamentalement, ça a été une période extrêmement difficile pour un personnel qui s'est retrouvé en première ligne face à une épidémie. Donc, je rappelle juste qu'en 2020, mars 2020, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Collectivement, et vous vous souvenez de tous les épisodes de cette époque-là.
Et l'hospitalisation privée a répondu présente, évidemment, pendant cette...
Ah bah plus que présent. Ouais. Enfin, plus que présent, ça a été des vraies transformations dans toutes les régions pour pouvoir prendre en charge les patients. Mais on l'a fait parce que c'est clairement dans notre ADN, c'est dans notre devoir. Il y avait personne s'est posé la question. Donc, ce qui est un tout petit peu dommage aujourd'hui, c'est que voilà, il y avait eu une forme de communauté de vue, communauté d'intérêt. Entre l'hôpital public et l'hôpital privé, qui avait été préservé par l'État, et aujourd'hui, en 2023, on a désynchronisé malheureusement les deux.
Retour aux sources, alors, hélas.
J'espère pas. J'ai encore espoir que les choses puissent se corriger, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a des mesures au niveau des salaires, notamment, et puis des aides ponctuelles pour le personnel de nuit, de week-end et de férié, que nous n'avons pas eu, hein, les mesures Guérini et Borne. Et l'hôpital public l'a eu, les hôpitaux privés ne l'ont pas eu, et pourtant les infirmières font le même métier, les aides-soignantes aussi, donc c'est les mêmes contraintes des deux côtés. Et quant à l'inflation, aujourd'hui elle n'est pas compensée. L'inflation 2023 n'est pas dans les tarifs reçus par les établissements hospitaliers. Autant vous dire que ça trompera personne qui nous regarde qu'il y a quand même eu de l'inflation en 2023, et en particulier chez nous. Je parle de l'énergie, mais je parle aussi de tous les métiers de service, le bio-nettoyage, l'entretien, la restauration, l'alimentation, enfin, tout ça c'est dans nos comptes d'exploitation. Il n'y a pas de miracle si je me retrouverais en perte cette année.
Alors pour finir, évidemment avec un rapport indirect avec ce problème de pénurie, c'est justement votre actualité originale ces temps-ci qui prouve que vous avez une vision à moyen et long terme. Vous ouvrez vos établissements à une population très particulière.
Oui, c'est bien, vous avez raison, on va être un peu plus léger. On va effectivement accueillir, c'est quelque chose qui a été créé par la FHP Bretagne Pays de Loire Centre, hein, donc c'est quelque chose qui a été créé en 2015, donc qui est un peu ancien, et qui vise à faire mieux connaître les métiers de l'hospitalisation, mais pas simplement les métiers soignants, mais tous les métiers qui contribuent au bon fonctionnement de nos hôpitaux. Et donc, on va recevoir beaucoup de lycéens dans une dizaine d'établissements dans 5 régions. Et l'idée, c'est leur faire toucher du doigt la réalité de nos établissements. Mais comme vous le dites, ça fait vraiment partie de nos priorités. Et vous le savez aussi, on est entreprise à mission. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est une caractéristique de Vivalto Santé. Et dans les grands objectifs d'entreprise à mission, il y a un objectif d'attractivité sur nos métiers du soin. Et donc, cette action-là, c'est une des dizaines,
parmi
centaines
bien sûr, parmi
d'actions parmi d'autres. Pour redonner envie à nos jeunes de nous rejoindre. Franchement, c'est un métier qui a du sens. Donc.
Bien, notre porte vous est ouverte, vous revenez quand vous voulez. Bravo et merci Emmanuel de Geuser, directeur général du groupe Vivalto Santé. Merci beaucoup.
Merci Fabien.
Voilà, on va terminer avec un journaliste plutôt énervé, hein, Olivier Robichon, pour la sortie de son livre « Quand notre santé va mal, la bérésina du système français ».
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Olivier Robichon, bonjour.
Bonjour, mon cher.
Il me semble vous avoir déjà vu dans mon émission.
On est de vieux habitués, vous et moi.
Bon, et ravi justement que vous reveniez dans l'émission. Merci. Alors, vous dirigez depuis de nombreuses années la revue Prescription Santé, incontournable, et très lue par le monde de la pharma, dont vous êtes l'âpre défenseur, on peut le dire.
On peut le dire, j'assume.
Et vous publiez donc aux éditions du CERF un ouvrage incroyable, assez sympathique et optimiste.
Pas pour tout le monde.
Pas pour tout le monde. Quand notre santé va mal, la bérésina du système français.
Oui.
Vous êtes vraiment énervé, vous.
Oui, là, j'étais énervé. En fait, on a un chiffre qu'on connaît, hein, mais qui a été remis à jour il y a peu de temps, qui m'a énervé et qui m'a effectivement convaincu de faire ce bouquin.
Et pourtant, on est le meilleur système de santé au monde.
Oui, il paraît.
Du monde et de sa franchement lieu, même.
Oui, mais peut-être pas sur tous les plans. Et je dirais même que sur le médicament, et notamment sur le médicament innovant, on est même plutôt pas loin d'être le tiers-monde de l'Europe. En termes d'accès, en tout cas. 507 jours, c'est le temps qu'il faut attendre, si vous êtes un patient lambda, entre le moment où un médicament a obtenu le feu vert de l'Agence européenne du médicament, vous savez que c'est le passage obligé, hein, et le moment où vous pouvez effectivement profiter de ce médicament en France.
507 jours. Ça fait un an et demi presque.
Oui, on est quasiment les plus mauvais élèves de la classe européenne. Normalement, la loi établit que le délai maximum, c'est 180 jours. Mmh. On en est très très loin, donc j'ai voulu savoir pourquoi il y avait ce délai et pourquoi les patients français sur certaines pathologies étaient vraiment maltraités.
Donc pourquoi et pourquoi c'est cette lenteur?
En fait, on prend du retard dès le début. C'est assez étonnant.
Est-ce que c'est surréaliste ou pas comme
Ah oui, il y a des moments surréalistes. Mmh. Dès le début et à la fin. Par exemple, au début, on s'aperçoit que les agences sanitaires françaises sont les seules à refaire ce qu'ont fait les experts européens.
Quand ce sont des experts relativement reconnus.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas
quand on s'adresse à l'Europe entière.
L'agence européenne est recrutée des Charlots. Mmh. Ils en ont pas loin de 900. Ils ont en plus des consultants extérieurs. Après, parfois, les agences françaises considèrent qu'on ne peut pas être expert si on a travaillé avec l'industrie. Vous m'expliquerez comment on peut être expert si on n'a pas travaillé avec l'industrie. Moi, je dirais plutôt le contraire.
Toujours ce problème de conflit, cette hantise du conflit d'intérêts.
Ah, ça, c'est hexagonal. On en fait. Moins on est habitué à travailler sur les médicaments, mieux on est censé les connaître. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'à la commission de transparence, celui qui est en charge de valider les traitements contre la migraine, c'est un spécialiste de la sclérose en plaques. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts, si vous voulez. Donc, dès le début, on s'aperçoit que les agences françaises refont ce qui a été fait par l'agence européenne. On est les seuls à faire ça en Europe. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'agence européenne a travaillé les dossiers, établi qu'un médicament est beaucoup plus efficace que dangereux, et donc donne son feu vert. Le dossier arrive en France, on refait le boulot. Pourquoi ? Probablement parce que les experts français sont meilleurs que tous les autres. Et donc, ils vont trouver des choses que... En fait, ils ne trouvent jamais rien. On refait le boulot, on perd du temps dès ce moment-là. Et puis, à la fin, là, moi, il y a un chiffre qui m'a scandalisé. Mais vraiment scandalisé. Une fois que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que l'agence a tout vérifié, qu'on est OK pour valider le médicament, qu'on est OK pour le prix, qui est souvent le problème le plus difficile.
Alors justement, on va en parler juste après. Voilà. Je voudrais que vous me fassiez un comparatif quand même avec les autres pays européens. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie.
Écoutez, il n'y a que l'Espagne qui va un peu plus lentement que nous. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. On est en retard. Aux États-Unis, dès qu'un médicament est validé, il est accessible. En Allemagne, je crois que le délai est de 130 jours.
Au lieu de, on compare toujours avec 507. Hein.
Voilà. Mm-hmm. En Angleterre, je crois qu'on doit être à 250-300 jours. Et en Italie, on va encore plus vite que la France de plusieurs mois.
D'accord. On est vraiment en retard.
Le meilleur système de santé au monde, c'est quand même problématique, si vous voulez. Alors,
j'ai lu dans votre bouquin que vous nous placiez parfois au même niveau que la Corée du Nord et l'Albanie.
Ah oui, alors ça c'est une belle
histoire. Fort,
Mais c'est vrai, lorsqu'on a attendu les nouveaux antidiabétiques, les antidiabétiques de nouvelle génération, quand il est enfin arrivé en France après des années et des années d'absence totale, il n'y avait plus que trois pays où il était absent. La Corée du Nord, l'Albanie et la France.
Ah oui.
C'est pas seulement un retard à avoir le dernier joujou médicamenteux, ce sont des vies. Ce sont des souffrances. On est sur le problème des anti-migraineux. La migraine, c'est 900 000 personnes en France qui n'ont toujours pas vraiment trouvé de solution à leur migraine. Je ne sais pas si vous avez des amis qui ont des migraines. C'est pas un mot de tête, un mal de tête lambda.
Alors qu'il y a des produits innovants qui sont sur le marché ailleurs.
Depuis cinq ans, il y a une vague de nouveaux produits, les anti-CGRP, qui sont arrivés, qui ont bouleversé le traitement thérapeutique de cette maladie. Vraiment, ça change la vie des patients. Eh bien, il y a 27 pays en Europe. Dans 23 des 27 pays européens, il y en a au moins un sur les quatre, et souvent deux, qui sont non seulement disponibles, mais surtout pris en charge. Mmh. C'est pas donné, c'est 250 euros par mois. Donc tout le monde ne peut pas se les payer. Eh bien, il n'y a que quatre pays en Europe où il n'y a aucun pris en charge. La France en fait partie. Est-ce que c'est normal?
Alors, vous parliez justement une fois qu'on a établi le prix du médicament, tout le monde s'est entendu surtout.
On a dit
sur la validité, sur le prix.
Exactement, ce qui est le plus dur.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'il faut encore attendre 110 jours. C'est-à-dire quasiment 4 mois avant que le produit soit effectivement accessible. Parce qu'il faut que la décision soit publiée au journal officiel. Il faut mettre 110 jours. Le journal officiel, il est capable de vous reproduire. Enfin, avant, de mon temps, quand j'étais jeune, il était capable de reproduire les débats à l'Assemblée nationale le lendemain du jour où les débats avaient lieu. Il faut attendre 110 jours avant qu'une décision soit publiée. En fait, on comprend
pourquoi
pas.
Pourquoi? Parce que pour l'administratif, la santé, c'est pas tellement une urgence.
Ouais, ça, c'est l'explication la plus positive. Certains vous diraient que c'est toujours 4 mois de gagner sur les dépenses que vont générer ces nouveaux médicaments. Parce que, en fait, le problème, il est là. C'est qu'on refuse de prendre en charge ces médicaments-là. Pourquoi ? Parce que la Sécu, c'est 1 an. Il faut être à l'équilibre ou il faut faire des économies au bout d'1 an. Ces médicaments-là, ils vont générer des économies. Prenez la migraine. C'est 1,6 million d'arrêts de travail.
Bien sûr.
Vous vous rendez compte ? 1,6 million d'arrêts de travail. Alors, Disons qu'il y en a 50% qui disparaissent, c'est une économie monumentale, mais ils s'en foutent à la sécu.
Mais pourtant, il y a une procédure d'accès précoce parfois pour le médicament, très rapidement.
Parce qu'on c'est vrai. L'accès précoce, ça existe et tout le monde s'abrite derrière. L'accès précoce, sauf que c'est dérogatoire. Quand il y a 100 personnes qui pourraient bénéficier d'un médicament en temps normal, l'accès précoce, c'est ouvert pour 50 d'entre eux. Mmh. Résultat des courses, je le mets dans le bouquin, l'accès précoce, et sans féliciter, c'est comme quand on a une gigantesque plaie au genou et qu'on se dit, regarde le beau pansement que j'ai. Ça sert à rien, la plaie derrière, elle reste encore ouverte.
Merci Olivier Robuchon, merci. Donc je vous conseille de lire son ouvrage, son masterpiece, aux éditions du CERF. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.